Et puis suivre l'émission d'hier, nous continuons notre semaine. Comme je l'ai dit hier, on a des thèmes très, très intéressants pour vous. Et aujourd'hui, on va parler de la profondeur. Ne sois pas un chrétien superficiel, pardon, mais sois un chrétien profond. C'est le thème de notre émission que je parle aujourd'hui avec Aurélie et Omer. Bonjour à vous deux.
Bonjour, Nathalie.
Bonjour, madame.
Vous allez bien?
Ça va très bien, super et toi-même? Bien.
Ça va super bien. Et aujourd'hui, on fait une émission sur la profondeur. C'est un sujet, je crois, qu'on a souvent abordé dans Bonjour chez vous, mais c'est un sujet qui est important, vraiment, que chacun d'entre nous puissions aller de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, j'ai envie de dire, dans notre vie chrétienne, ne pas se limiter voilà, au service du dimanche matin, un post par-ci, une citation par-là sur les réseaux, mais vraiment d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est ça à ce à quoi on va vous encourager aujourd'hui. Et Omer, tu vas faire un conseil du coach.
Oui, comment développer de la profondeur, quelques astuces et dangers sur le chemin de ceux qui veulent développer de la profondeur.
Oui, développer de la profondeur dans la parole.
Dans la parole,
dans la parole de Dieu. Un super, super sujet que tu vas pouvoir développer tout à l'heure. Et avec toi, Aurélie, on va commencer tout de suite dans la pensée du jour.
Alors, de manière simpliste, on peut définir la superficialité comme le fait de rester léger dans sa vie chrétienne, vu que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et quelques caractéristiques qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on peut préférer l'extérieur de la coupe, un peu comme ce que Jésus reproche aux pharisiens. On préfère le paraître, on préfère ce qui est visible. On peut être très actif, par exemple le dimanche, comme tu disais Nadine, actif sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas un vrai fond, ça ne vient pas d'une vraie relation avec Dieu. On peut aussi également se contenter du strict minimum quand ça concerne Dieu, et on ne veut pas faire le kilomètre de plus, on veut toujours demeurer dans une zone de confort. Et dès l'instant où ce n'est plus facile, dès l'instant où ce n'est plus simple, on n'accepte pas de payer un certain prix parce que c'est devenu trop compliqué. Et tout cela fait en sorte qu'on a du mal à développer une relation avec Dieu, une relation profonde, une relation sincère. On a du mal à le servir. On a même du mal à réagir dans la vie chrétienne face aux attaques, face à la perception de la parole, face à différentes choses. Bref, on est resté léger. Et la Bible dit dans Daniel 5... C'est l'histoire du roi Belshazzar. Et là, au verset 25, ça dit « Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, comptée, pesée et divisée. » Et voici l'explication de ces mots. « Comptée, tu as compté ton règne et y a mis fin. Pesée, tu as été pesée dans la balance et tu as été trouvé léger. » Ça veut dire quoi? On a pesé ce roi et face à tout ce qu'il faisait, hein, si on lit un peu l'histoire, on voit qu'il a été trouvé léger. Il y a des comptes qu'on va rendre à Dieu sur la façon dont on a vécu notre vie chrétienne et personne d'entre nous ne veut être trouvé léger. Mmh. Alors, pourquoi certaines personnes restent dans la légèreté et manquent de profondeur? Mais parfois, c'est parce qu'on banalise le royaume de Dieu. On est trop intéressé par le monde. Il n'y a pas vraiment eu cette vraie rupture avec la vie passée, avec les choses du monde. Il n'y a pas eu un vrai abandon à Dieu. Et ça fait qu'on reste toujours à la surface et qu'on ne va jamais profond. Il y a aussi des personnes qui, malheureusement, sont trop habituées aux choses de Dieu. On voit ça avec les fils d'Élie et de Samuel dans la Bible. Ils ne sacralisaient plus, en fait, les choses de Dieu. Ils étaient trop habitués et on voit que ça les a conduits également à la dérive. Et également des personnes qui n'ont plus soif de connaître Dieu, qui n'ont plus soif de l'aimer comme au premier jour. Et ça vient souvent d'une mauvaise compréhension. On nous a peut-être jamais enseigné que l'amour de Dieu doit vous presser et que c'est ça la vie chrétienne. Plusieurs personnes ont été enseignées que la vie chrétienne, c'est telle chose ou telle autre. C'est un combat, c'est ceci, c'est cela. Mais la vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu qui te presse et qui te pousse vraiment à développer cette relation avec lui. Et malheureusement aussi, pourquoi est-ce qu'on peut rester léger? Mais c'est parce qu'on est trop préoccupé par soi-même, son image, l'opinion des autres. On n'est pas assez préoccupé par Dieu. On est au niveau des apparences. Mais aujourd'hui, alors qu'on est en train de faire cette émission, le but, en fait, est de vous encourager à vous laisser presser par cet amour de Dieu pour devenir profond. La profondeur va plus loin que la surface. La partie invisible de notre vie chrétienne devrait être plus ancrée que la partie visible. On ne peut pas se satisfaire d'une dimension ordinaire parce que le cœur doit être engagé, notre cœur doit être profond envers le Seigneur. Et l'une des clés pour quitter la superficialité que je peux partager avec vous avant de conclure cette pensée, c'est le Saint-Esprit et la soif de Dieu. Mmh. C'est ça qui va faire la différence dans votre vie. Et ça passe par quoi? Ça passe par une vraie rencontre avec Dieu, le désir de le connaître, la révélation de l'amour de Dieu. Si Jésus nous a aimés à la croix au point de donner sa vie pour nous, il n'y a rien qu'on ne puisse faire pour lui sur cette terre. Et également, on peut demander au Saint-Esprit de nous embraser afin de créer cet amour profond, cet attachement profond à Dieu. La Bible dit que la profondeur appelle la profondeur, un flot en appelle un autre. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir de cette soif qui va certainement faire la différence.
Amen, amen. Merci beaucoup Aurélie, ta pensée était très très belle. Et garde tes points parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on a. J'aimerais bien que tu puisses redire avant de pouvoir continuer avec toi Aurélie. On va regarder notre verset du jour. Il se trouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean. Jean 14, le verset 21. La parole dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et dans ce verset, on voit que Jésus est en train de nous montrer que la personne avec laquelle il va rentrer en intimité encore plus grande, c'est la personne qui va garder ses commandements. Il va garder ses commandements comment? Parce qu'il va le connaître en fait. Parce qu'il va aller plus loin, il va pas rester quelqu'un de la foule, mais il va devenir un disciple, il va devenir quelqu'un de l'intimité, quelqu'un de la profondeur. Et donc quand on dit d'être un chrétien profond, c'est qu'il y a vraiment, il y a un impact. Il y a un impact sur notre éternité. Tu as parlé aussi de la soif, etc., de toutes ces choses-là, du royaume. Il y a un impact aussi même dans ce qu'on va vivre. Mm-hmm. Des fois, on est un chrétien. Si on reste un chrétien de surface, nous allons vivre certaines choses, mais il y a des choses dans lesquelles on n'aura pas accès, en fait. On sera limité. Et il y a tellement plus, en fait, avec le Seigneur. Et c'est ça l'encouragement qu'on veut faire pour vous aujourd'hui. Quand on te dit, sois un chrétien profond, c'est pas pour te dire que tu n'es pas assez bien, c'est pas pour te critiquer ou te condamner, mais c'est pour t'appeler, t'inviter à plus, en fait, cette invitation à plus de profondeur, Dieu l'offre à chacun de nous. Et des fois, il faut se challenger, hein. Même nous-mêmes, hein, on est là, et des fois, on peut devenir confortable, on peut avoir, voilà, on connaît Dieu d'un certain niveau, mais encore plus. Et des fois, on va se challenger, est-ce que tu fais un jeûne? Ah ben, moi aussi, j'aimerais bien jeûner, et tout ça. Et c'est comme ça, des choses qu'on fait, non seulement pour aller en plus de profondeur, se challenger à prier ensemble, se challenger même dans, ok, j'ai lu telle chose, est-ce que tu as lu telle chose? Et on partage un petit peu ce qu'on a lui dans la parole. Des fois aussi, notre environnement va nous aider à aller plus en profondeur, mais nous-mêmes aussi, on doit chercher à être challengé dans notre vie chrétienne pour aller plus loin, en fait.
Mm-hmm. On doit chercher à aller de gloire en gloire, et ce, dans tous les domaines de notre vie, y compris dans notre vie chrétienne. Et il y a un des points que j'ai mentionné sur lequel je veux revenir, c'est que vraiment, la partie invisible doit être plus importante que la partie visible, et ça doit être le reflet de la partie invisible. Mm-hmm. Parce que parfois, justement, le paraître est tellement important dans la société actuelle que oui, sur le papier, tu peux être un ultra super bon chrétien, mais la réalité, c'est que dans ta vie, mais il y a quelque chose qui cloche. Lorsqu'on voit la lettre à l'église de Sardes, c'est dit que ben, tu parais vivant alors que tu es mort. Et souvent, c'est ça aussi la superficialité. C'est qu'on a une apparence de quelqu'un qui est OK au niveau de la vie chrétienne, mais la réalité, c'est qu'il y a une mort à l'intérieur parce que cette partie cachée que personne ne va voir au final n'est pas entretenue. Donc, ça commence par cette soif de Dieu où on se dit, mais Seigneur, je veux... Moi, c'est l'un de mes sujets de prière courants. Parce que quand je suis née de nouveau, ceux qui ont écouté mon témoignage, j'ai une soif surnaturelle qui m'a fait tellement désirer Dieu. Et justement, dans cette soif, il y a des choses que je ne comprenais pas, que je connaissais pas, mais que j'ai découvert, j'ai envie de dire, seul avec Dieu. Et je me disais, waouh, ça existe, ça, dans la vie chrétienne. Pour moi, c'est une profondeur. C'est que tu atteins un certain niveau. Et il faut aller plus loin aussi. Et ça, ça me pousse souvent, en tout cas, à dire à Dieu, Seigneur, j'ai soif, je veux vivre cette soif-là, parce que je sais que ça peut amener très loin. Et c'est pour ça que j'encourage aussi les gens par rapport au Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, sincèrement, quand c'est le Saint-Esprit qui dirige, tu vas vraiment aller loin dans ta relation avec Dieu. Tu iras tellement plus loin que ce que tu vas faire toi-même par tes propres efforts ou parce que tu as vu les autres faire. Demande au Saint-Esprit de nous remplir de cette soif de Dieu qui fait la différence. Je crois que ça va aider et puis ça va éviter beaucoup de pièges et de dangers.
Amen. Et on aimerait prier pour vous. Je pense que je vais demander à Aurélie de le faire par rapport à la soif. Parce que c'est sûr que si vous n'avez pas la soif et qu'on reste juste, ça devient juste une émission comme une autre, ça devient une discussion comme une autre. Ah oui, c'est vrai, je pourrais être plus profonde. Ah, peut-être que je vais prendre une journée de prière, j'ai peut-être prié un peu plus. Et puis, au bout de 2 semaines, on revient à la normale, en fait. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait par nos propres efforts, dans le sens où on se met un rappel, une alarme, faut que je prie. Mais c'est l'élan de notre cœur, et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous attire, en fait, dans sa présence. Et c'est tellement plus agréable lorsque c'est Dieu qui nous attire et on reste là et on veut encore plus et encore plus. On veut encore rechercher des moments avec lui, que ce soit la pause du midi alors qu'on est au travail, que ce soit parce que pendant qu'on fait, on fait le repassage, peu importe, que ce soit le soir alors que les enfants sont couchés ou tôt le matin, se retirer pour rechercher sa présence. C'est encore mieux quand c'est lui qui nous attire et nous-mêmes on y va et on est rafraîchi, en fait, et on a soif de lui. Et je crois que la soif, c'est le Seigneur qui la met dans notre bouche, et c'est à partir de là qu'on peut vraiment grandir dans notre profondeur avec le Seigneur. Alors, on a tout un conseil du coach qui va nous aider à être outillés pour comment développer la profondeur, mais je crois que le premier ingrédient, c'est la soif. Et Aurélie, je te demande, s'il te plaît, de prier pour les gens.
D'accord. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que c'est toi qui nous conduis. Et Saint-Esprit de Dieu, tu es celui-là qui sait créer cette soif. Alors, je veux prier maintenant que toutes les personnes qui sont connectées à ces émissions, qu'elles puissent être remplies de toi, cher Saint-Esprit. Que la soif que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, et qui m'a animée dans ces débuts de vie chrétienne, que cela puisse être le partage des personnes qui nous suivent. Seigneur, mon cœur battait pour toi. Tu étais le centre. Tu es le centre. Tu es le but. Et je prie, Seigneur, afin que cela devienne le partage de ces personnes. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Et je crois qu'alors qu'on est en train de parler, des personnes sont remplies du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu te déverses dans la vie de ces personnes aujourd'hui. Merci parce que tu les remplis, tu les inondes, tu les touches. Merci pour tes touches, ta touche, Saint-Esprit, qui descend sur mes frères, sur mes sœurs qui sont connectées. Merci pour cette soif qui s'attache à leur cœur. Merci pour ta vie que tu répands, Seigneur. Merci parce que tu les amènes dans des profondeurs, des choses qu'ils ne connaissent pas encore, Seigneur, des choses qui ne sont pas montées dans leur propre cœur. Merci parce que tu les amènes dans ces choses-là, ces choses qu'ils n'ont pas encore vues, ces choses que leur oreille n'a pas encore entendues. Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta présence. Merci parce que tu remplis chaque maison de toi. Et merci pour tout, Esprit de Dieu. Amen.
Amen. Amen. Merci Aurélie. Depuis le début de l'émission, pendant que tu parlais, justement, j'avais l'image d'un iceberg. Et un iceberg, en fait, la partie qui est visible, la partie qui est au-dessus de l'eau, elle est toute petite. Petite, elle est grande, mais elle est petite comparativement à la partie qui est en dessous, en fait. Et c'est ça, c'est cette profondeur, cette partie invisible qui fait la force de l'iceberg, en fait, que même si un grand bateau arrive à cogner l'iceberg, ben c'est le bateau qui perd parce que, en fait, l'iceberg est beaucoup plus grand et plus fort à l'intérieur dans une partie qui est invisible à l'œil nu. Et vraiment, on veut vous encourager aussi en développant de la profondeur. Ben voilà, peut-être de l'extérieur, j'ai toujours l'air d'une petite madame et tout ça, tranquille, mais à l'intérieur de moi, je suis forte. À l'intérieur de vous, vous êtes fort. Et des fois, devant des situations de la vie qui vont venir comme ça pour vous déstabiliser, parce que vous êtes fort, parce que vous êtes profond, parce que vos racines sont solides et stables, vous allez pouvoir y faire face. La Bible nous va nous dire, Paul va parler de ses compagnons, il va dire que Démas l'avait abandonné par amour pour le siècle présent. On peut avoir bien commencé dans notre vie chrétienne, mais si on n'entretient pas ce feu-là, si on ne grandit pas dans la profondeur, le service, c'est pas ça qui va changer, qui va nous sauver. C'est pas toutes ces choses-là, c'est notre relation avec Dieu. Et vraiment, on veut vous encourager à continuer cette belle course de la vie chrétienne. C'est la plus belle des courses et la couronne de gloire nous est réservé à chacun de nous. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, la réserve pour chacun d'entre nous. Alors, grandissons dans notre profondeur avec Dieu. Et comment le faire? On va le découvrir tout de suite avec Omer dans la rubrique Conseil du coach.
Alors, comment développer de la profondeur dans la parole? Je vais rebondir sur ce qui a été dit précédemment pour établir 3 éléments qui sont essentiels, qui vont dans le sens de ce qu'Aurélie a dit. J'ai beaucoup aimé lorsqu'elle a dit que la partie invisible doit être plus importante plus importante ou profonde que la partie que l'on voit. Il y a 3 mots essentiels que l'apôtre Paul va utiliser en fait pour décrire ce que Aurélie essayait de si bien nous dire dans sa pensée du jour. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 7, Paul dit « étant enraciné et fondé en lui », et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondé en actions de grâce. Donc, on comprend par là qu'il y a trois mots. Premier mot, c'est être enraciné. Enraciné veut dire que, bien, c'est la grandir, en fait, dans la profondeur. Ne pas être un chrétien, en fait, de surface. Et au plus, on va développer cette relation profonde avec Dieu. Au plus, en fait, on sera capable de résister dans les mauvais temps. On sera capable de se remettre vite quand on a une offense. On sera capable de résister quand les circonstances de la vie nous frustrent. Je voulais juste mettre cela comme une table afin de pouvoir maintenant développer ce conseil du coach sur comment en fait développer la profondeur dans la parole. Donc il y a trois mots essentiels: être enraciné, être fondé, qui nous parle de notre surface maintenant. Ensuite de cela, être affermi. Ça veut dire je grandis en hauteur, mais les vents ne m'enlèvent pas de mon chemin. Les circonstances ne m'enlèvent pas de mon chemin. Pourquoi? Parce que les racines, justement, sont dans la profondeur. Alors, lorsqu'on veut développer de la profondeur dans la parole, j'aime bien le mot profondeur, nous devons savoir qu'il y a essentiellement trois ennemis de la profondeur. Les trois ennemis de la profondeur, eh bien, ce sont trois ennemis qui vont tenter de nous visiter de temps en temps. Et si on a notre garde baissée, eh bien, ces ennemis vont prendre avantage de nous. Le premier ennemi, c'est ce que j'appelle le vol de la parole. Dans la parabole de la semence, Jésus dit que quand la semence est jetée sur différents types de terrains, il y a un type de terrain dans lequel, eh bien, quand la semence dont la parole tombe, le diable vient, il vole. En fait, ce qui est étonnant, c'est que il n'y a même pas une résistance, le diable vient, il vole. Ça, c'est le cas d'énormément de personnes qui fréquentent l'église. Pourquoi là, Jésus dit, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la parole et que, évidemment, ils ne posent pas des questions non plus et ils sont juste intéressés. Ben, j'ai fait mon culte, j'ai chanté, c'était beau, c'était merveilleux, ils sont partis. Mais le diable vient, vole la parole. Matthieu, donc, chapitre 13, le verset 18 au verset 19. La deuxième catégorie des ennemis de la profondeur, eh bien, c'est lorsque on a personne pour nous guider. On est notre propre maître à nous-mêmes. Un enfant apprend à parler parce que il est avec un adulte qui est en train de parler ou des aînés qui sont en train de parler. Et cet enfant développe le langage, développe la culture, prend les habitudes de famille dans l'imitation ou des adultes aussi qui sont capables de lui expliquer. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, malheureusement, on a cette mentalité d'être autonome. Je vais apprendre par moi-même. Et les gens aiment bien citer ce verset de 1 Jean qui dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction vous enseigne vous-même. J'aimerais bien faire un conseil du coach là-dessus, faire une exégèse. Vous allez voir que...
Je note.
Vraiment ce que le texte est en train de vouloir dire. Dans le royaume de Dieu, on ne fonctionne pas de façon indépendante. Mais Pierre dit, et vous, comme des enfants nés en des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel par lequel vous allez grandir. Eh bien, un bébé ne prend pas le lait, on lui donne le lait. Et donc, nous avons besoin des gens qui vont nous guider, nous expliquer la parole. Quand on lit dans Actes chapitre 8, le verset 30 au verset 31, la Bible nous dit, Philippe courut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et on connaît la suite du récit. Philippe va lui expliquer les Écritures. Quand on est un enfant de Dieu, on doit avoir en fait un plaisir de s'asseoir dans une étude biblique. Et un aîné dans la foi, ou un pasteur, ou un ancien, ou quelqu'un qui a été établi, qui est un aîné dans la foi, peut alors prendre les Écritures, les ouvrir et prendre le temps d'expliquer. C'était le secret de la croissance de l'Église dans les livres des Actes des Apôtres, où la Bible dit que dans les maisons, ils étaient dans les maisons et dans les lieux publics, ils étaient, constants dans l'enseignement des apôtres. Et c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. On ne peut pas juste se limiter à la prédication du dimanche. On a besoin des gens qui vont nous enseigner la parole. Alors, le dernier, je ne veux pas trop traîner dessus, la pratique du péché. Si vous êtes un professionnel dans le péché, eh bien, dans un certain type de péché, ça va empêcher juste la parole, en fait, de vous imprégner et ça va empêcher le développement de la profondeur. Alors, deuxièmement, j'aimerais entamer avec vous maintenant comment aller sur le chemin de la profondeur. Ça, c'est la partie que j'aime. C'est premièrement un désir ardent. Eh bien, je reprends le verset ici de 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, qui dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Donc, il y a une chose ici que vous pouvez faire pour que le désir ardent se manifeste en vous, vous pouvez prier à Dieu. Vous savez, on dit souvent dans les livres de Jacques que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Mais dernièrement, j'ai découvert, en fait, c'est qu'importe ce que vous manquez dans votre vie chrétienne, demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la soif de toi. Il y a des prières comme ça que Dieu exauce rapidement. Donne-moi la soif de toi, donne-moi la faim de toi, donne-moi la faim de ta parole. Le Seigneur va créer ce désir qui va faire que vous avez envie de lire votre parole. Vous avez envie de passer du temps avec lui. Donc, le premier point, c'est le désir ardent. Deuxième point, c'est passer du temps avec la parole de Dieu. Vous n'allez pas juste la lire pour juste connaître l'histoire, mais vous voulez aller plus en profondeur. Vous allez acheter des instruments. Donc c'est ce que j'appelle la proximité avec la parole. Vous allez acheter un lecteur de la Bible. Vous allez acheter un concordance. Vous allez investir en fait dans différentes sortes de Bibles. Et je ne juge personne, mais si tu te dis être chrétien depuis longtemps que tu as juste une seule version de la Bible parce que c'est la seule que tu peux te payer, gloire à Dieu. Mais si tu as des moyens, tu devrais avoir une certaine panoplie d'outils qui vont pouvoir t'aider à développer de la profondeur. Alors Dieu donnera à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 8, les clés. Il dit, Josué 1, 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. La clé, c'est méditer en fait. Parce qu'on peut dire des versets bibliques, mais sans comprendre ce qu'on dit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la clé numéro 2 pour le chemin de la profondeur, c'est vraiment cette habileté de mettre nos smartphones ou je ne sais pas quel autre outil qui peut nous distraire de côté et de prendre la Bible, de l'ouvrir, de la lire, prendre un morceau et juste le mâcher. J'ai déjà fait, je crois qu'un espace de 2 mois avec Matthieu chapitre 11, où Jésus dit « Prenez mon joug car il est doux et léger ». Voilà, et je prends juste ce temps avec ce texte que je repasse dans mon cœur constamment. Troisième des choses qui nous amène à la profondeur, c'est la proximité avec Dieu. Vous voyez, c'est la proximité avec Dieu. Dans mes temps privés, ou maintenant, comme dans Marc chapitre 4, le verset 34, la Bible dit il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Vous voyez, quand on prend le temps, constamment dans des temps de prière quotidienne, des temps de méditation quotidienne, la parole alors commence à devenir claire en fait en nous. C'est le chemin de la profondeur. Pourquoi ? Parce que Dieu est l'auteur de sa propre parole. Il est le meilleur enseignant de sa parole. Et en fait, une des choses qui se passe lorsque on applique le point numéro 1, la proximité avec la parole, 2, la proximité avec Dieu, c'est que on va remarquer, c'est ce que j'appelle dans mes termes à moi, le cerveau spirituel. Notre cerveau spirituel, en fait, il se développe, ou ce que je peux aussi appeler la mémoire spirituelle. Ça veut dire qu'on a la capacité de se souvenir d'un message qui a été prêché facilement, des versets qui ont été cités. On a la capacité de juste de feuilleter la parole de Dieu. Et puis lire un texte, c'est comme s'il s'imprime en nous. C'est comme ça qu'on connaît que notre proximité avec Dieu est en train de grandir, notre proximité avec la parole est en train de produire un effet. Mais si vous êtes là, vous lisez, et que la parole ne peut pas naturellement juste s'imprimer, il faut vraiment aller retourner à Dieu et demander à Dieu, Seigneur, creuse en moi que ta parole demeure en moi. Donc quand on arrive à ce niveau-là, au niveau 3, où on a cultivé la proximité avec Dieu dans des temps de recueillement quotidien, régulier avec lui, je vous demande de faire la prière, et c'est le point numéro 4, c'est l'illumination. Mmh. Et personnellement, c'est ce qui m'a emmené à vraiment connaître la parole, à développer de la profondeur dans la parole. Luc chapitre 24, le verset 45, la parole de Dieu dit « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent l'écriture ». Vous voyez ? Quand je suis tombé sur ce verset, j'ai commencé à prier Dieu, « Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne l'Écriture, que je l'ouvre dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, que je puisse comprendre. » Et quand tu fais ce genre de prière, tu peux rajouter cette prière ici où tu dis à Dieu, « Seigneur, permets que ta parole en moi soit comme du pain, que j'aime ta parole comme j'aime la nourriture, que j'aime ta parole comme j'aime ma soif. » Vous allez lire la parole de Dieu, vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de manger littéralement. Mais au-delà de ça, c'est que là, cas, j'ai parlé du cerveau spirituel, vous allez développer votre estomac spirituel, ok? Donc, quand votre estomac spirituel se développe, vous allez pouvoir tirer les nutriments de la parole, en fait. Il n'est pas seulement une parole qui rentre à vous et qui sort, mais cette parole rentre en vous, elle vous nourrit, vous retirez le meilleur de cela, et par l'illumination, vous avez Dieu qui vous ouvre les yeux. Vous pouvez alors commencer à comprendre les Écritures, faire par exemple le rapport entre un texte, mettons, de Deutéronome et puis un texte du Nouveau Testament qui, en apparence, en fait, on voit rien, mais par l'illumination, vous commencez à comprendre les Écritures. C'est pour ça que Philippe pouvait expliquer les Écritures en partant à partir du prophète Ésaïe jusqu'au passé, au travers de la royauté et arriver à expliquer tout ça à l'unique Éthiopien. Tout ça, en fait, juste... à partir d'une lecture que l'eunuque éthiopien faisait, et la dernière des choses qui va produire la profondeur, eh bien, c'est la compagnie des frères ou la compagnie des frères et sœurs, pour pouvoir mieux le dire dans le langage d'aujourd'hui. Vous devez aimer la compagnie des gens qui aiment la parole de Dieu, des gens qui aiment discuter de la parole de Dieu, pas seulement des gens qui seront assis avec vous, parler de football, parler de la nourriture, de la cuisine, de voyage, mais la compagnie que vous entretenez au travers de vous, aimez les gens qui aiment la parole de Dieu. Actes chapitre 13, le verset 1, il dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétraque et Saul. Et qu'est-ce qui a jailli de cette église-là? C'est tous les joyaux que nous voyons dans le Nouveau Testament, parce que c'était la compagnie des gens qui aimaient la parole de Dieu, qui méditaient la parole de Dieu et qui partageaient leur révélation. Je finis avec ce texte de Psaume 119, verset 105, qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »
Amen, amen. Merci, merci énormément pour ce beau conseil du coach, un conseil du coach bien, bien costaud. Bien profond que je vais moi-même réécouter, je suis inspirée et merci vraiment pour tout ce que tu apportes, tu es un homme de la parole, merci beaucoup, un homme très profond. On va se retrouver demain, on a terminé, merci Aurélie pour ton apport.
J'ai l'impression. Elle m'a oublié. Elle avait Dieu que pour son mari.
J'ai comme l'impression. Je me suis sentie repris dans mon esprit. Merci Aurélie. Et merci à vous d'avoir été là. On va se retrouver demain. Demain, notre thème est « Est-ce la volonté de Dieu ou celle des hommes qui priment dans ta vie ?» Et Frank sera là pour un flashback. Vous rappelez, on a fait un flashback 1. Et là, c'est la suite. C'est l'histoire de Marie-Jeanne Polly Wigglesworth. Alors, on va écouter la deuxième partie de son histoire demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. I've been trying, but I don't always do the things I know to do. Be lying if I said most days I look just like you do. Mm-hmm. Yeah, but I hope there's something that they see in the life of love I lead. I got something that they need, and I hope in everything I do there's a little more of you. Yeah. That there's something so different. They're wondering what's missing, 'cause something don't look quite the same. Yeah, there's nothing like someone who shows up with your love and loves with a love that can make something different, something different, something different, something different. My existence isn't living for myself. Always giving someone who lays my life down for somebody else. Hey, else. And be something so different. They're wondering what's missing, 'cause something don't look quite the same. Yet there's nothing like someone who shows up with your love and loves me. Make something different, something different, something different. Ooh, ooh.
so different and be something so different
and be something so different. They're wondering what's missing, cause something don't look quite the same. Yeah, there's nothing like someone who shows up with your love and loves me, a love that can make something so right, love that's so bright.
h 30 6h30, Cocorico.
Avec Innocent.
I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in the hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. I like to dance and it looks like this.
I like to dance and it looks like this.
Yeah, looking good. We like to dance and it looks like this. Come on. Smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining.
We feel like dancing. 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 We feel like dancing.
nobody else could. And I know you're working everything for my good. Every trial, every heartache, every letdown, you're raising it up for my good. Every season, every new day, every moment, you're making a way for my good. Oh, you're making a way for my good. Sometimes it's hard to live the things I believe. Sometimes my doubts do get the best of me, yeah. These days I struggle to trust like I should. Still I know you're working everything for my good. Every trial, every heartache, every letdown, you're raising it up for my good. Every season, every new day, every moment, you're making a way for my good. Every moment, you're making a way for my good. Oh, you're making a way for my good.
So why would I worry? Lord, you are the great I am. I may not know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow in his hands. Why would I worry? Lord, you are the great I am. I may not know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow in his hands.
Cocorico
avec Innocent. Parole du jour, chaque jour un mot d'encouragement avec Bob et des Bigasses.
C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Soyons dans l'allégresse et la joie. Psaume 118, verset 24. Vivre dans l'instant présent. Bonjour à tous. Dieu veut que j'apprécie la saison dans laquelle je me trouve, ici et maintenant. Certains ne vivent que pour l'avenir et disent « le bonheur dépend de ce que je ferai et de ce que j'aurai ». D'autres vivent dans le passé et Salomon leur répond « ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse ». Ecclésiaste 7, verset 10. Le magazine américain The New Yorker publiait un jour le dessin de deux moines silencieux assis côte à côte en tailleur sur le sol. Le plus jeune interroge le plus âgé du regard. Ce dernier lui dit « Non, il ne va rien se passer, c'est tout ». C'est exactement ce que signifie vivre dans l'instant présent. Je n'attends pas autre chose. Je ne me laisse pas distraire. Je n'essaie pas de m'évader. Je suis pleinement vivant car je vis le moment présent. Dieu a fait de grandes choses pour moi dans le passé et je lui fais confiance pour les grandes choses du futur. Mais sa présence, sa puissance, sa bonté, sa grâce, sa bénédiction, tout ce qu'il est ne peut être expérimenté que dans l'instantané. Est-ce que je reste dans ma bulle pour éviter d'être rongé par les douleurs de l'existence? Est-ce que je me protège en me retirant au plus profond de mon antre pour n'être disponible que pour l'agréable, le prévisible et le sûr? La Bible dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite ». Soyons dans l'allégresse et la joie. Aujourd'hui même, soyez dans l'allégresse et la joie.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
touch upon this funk and give me miracles. Make you know how we left it right is something we control.
Métier vouliez-vous faire, enfant ? C'est drôle de repenser à tout ce qu'on a rêvé d'être ou de devenir dès lors qu'on nous lit nos premières histoires, que l'on regarde ses premiers films d'animation, qu'on nous enseigne ses récits retraçant les héros de la foi, ou tout simplement que l'on passe d'une classe à l'autre à l'école. Médecin, avocat, pompier, policier, vétérinaire, instituteur, oui, cela porte vraiment à sourire quand on considère que tout enfant que nous étions, nous trouvions de la joie et de l'honneur à pouvoir servir les autres au sein de notre communauté plutôt que de satisfaire nos propres intérêts. Fort heureusement, il y en a qui poursuivent leur appel. Et fort heureusement aussi, il y en a d'autres qui permettent au monde de fonctionner en étant artisans, employés, cadres, artistes, etc., etc. Auteur de best-sellers de renommée mondiale et de matériel d'enseignement primé, mais aussi orateur d'envergure internationale, John Beevere a écrit « Votre vocation est plus grande que vous. Elle concerne les personnes que vous êtes appelées à influencer. » Plus qu'un métier passion, quand notre raison d'être nous pousse à contribuer au bonheur des autres, ça donne sans doute du sens à notre engagement et aussi aux sacrifices liés. Et si aujourd'hui, j'attisais en moi cette âme d'enfant qui ne cherche que le bien, rien que le bon ? Un enfant fait tout autant grandir ses parents au fur et à mesure de sa propre croissance.
Phare FM, la radio autrement.
Looking back, I see a different kind of me. Trying to be free, but hanging by a string. When my world was caving in, your love pulled me from the floor. You were the only cure. I tasted life brand new.
stop to think I've messed it up again, or that by working hard I open up your hand. Your love has always been the door. Nothing I could earn more than I deserve. You're making all things new. Lose just what you do. No, I don't gotta prove nothing new to get hold of your love. So why do I keep acting like I'm messing it up? Oh, why don't we keep acting like I'm messing it up? Oh, no. Et tu seras la plus forte que tu crois.
expérimenter la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus.
La première lettre de Pierre. Il s'appelait Siméon ou Simon quand il est devenu disciple de Jésus et faisait partie du cercle intime des 12 disciples. Après avoir donné la révélation que Jésus était le Messie, Jésus l'a renommé Képhas, le roc en araméen, traduit plus tard en grec, Pétros ou Pierre. Jésus lui avait promis qu'il deviendrait le leader des apôtres pour guider la communauté messianique à Jérusalem durant toutes ses premières années. Et c'est bien ce qu'il s'est passé. Rappelez-vous les premiers chapitres du livre des Actes. Finalement, Pierre a été envoyé porter la bonne nouvelle de Jésus au-delà des frontières d'Israël. Et cette lettre a été écrite des décennies après le début de cette mission à travers le vaste empire romain. Nous découvrons à la fin de cette lettre que Pierre se trouve à Rome, qu'il appelle Babylone. Et nous apprenons, par la même occasion, qu'il a en réalité fait rédiger cette lettre par un de ses collaborateurs nommé Sylvain. Il s'agit d'une circulaire adressée à diverses communautés chrétiennes de la province romaine d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Ayant appris que la plupart de ces chrétiens non-juifs étaient persécutés,
Phare FM vous a présenté Bible Project. Retrouvez cet épisode en intégralité et en vidéo sur bibleproject.com/français.
Phare FM, la radio autrement.
Have you ever thought that the world has kind of lost its way? Crazy as it seems, yeah, I know it's gonna be okay. Ooh, yeah. It doesn't scare me, it's temporary. There's something better we got forever. And it won't be long, cause we know our hope is on the way. The way. So keep your head up.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God.